Alors on va commencer Bezrat Hashem, Machlo Ben Saadia. On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième shiur sur la paracha Kitissa. Je vais demander le silence s'il vous plaît.
Messieurs,
Sayada. Attends, s'il vous plaît.
Alors, Beauvais.
La chevette.
Alors, hier on a étudié l'histoire du veau d'or. Hier, ce qu'on a essayé d'expliquer pendant la première partie de ce cours, on a expliqué comment les Bnei Israël, 40 jours après le mariage avec Akadosh Baruch Hu, comment les Bnei Israël ont pu fauter tellement gravement, comment ils ont pu tomber tellement gravement. Ce qu'on a expliqué hier, le point de ce qu'on a expliqué hier, c'était qu'en vérité, les Bnei Israël ne voulaient pas à la base faire Avodah Zara. Ça s'est mal terminé, ça c'est évident. Mais les Bnei Israël à la base ne voulaient pas faire Avodah Zara. Les Bnei Israël à la base, ils cherchaient un remplaçant immortel à Moshe Rabbeinu. Et comme Moshe Rabbeinu leur avait parlé du concept des kérouvim, donc ils ont voulu, comme Ramban explique, ils ont voulu remplacer ça par un veau. Et pour eux, c'était cohérent. Bon, on sait très bien que ça s'est mal terminé. Malheureusement, c'est très très mal terminé. Vous connaissez la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que... Les avocats vont être servis aujourd'hui. Vous verrez pour que Moshe Rabbeinu est un grand, grand, grand avocat. Très, très grand avocat. Mais c'est un grand classique qu'on va faire aujourd'hui.
J'ai raté mon métier.
Alors, on va voir dans la paracha d'aujourd'hui que... Donc, Akadosh Baruch Hu, suite à ça, comme on va lire tout de suite, Pasuk Yud, on va lire les psukim et après on va faire un rashi. Pasuk Yud, page 530. Alors, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, donc il lui dit, on va prendre Pasuk Tet, excusez-moi. Va yomer Adonai el Moshe, Dieu a dit à Moshe, Ra'iti et ta amazé, j'ai vu ce peuple, j'ai vu comment ils ont fauté. Veine am keshe oref ou. C'est un peuple qui a la nuque rude. Alors, vous savez que le Zohar, il dit, vous savez que le Zohar, il dit que les gens, quand ils lisent ce verset, ils comprennent dans un sens négatif. Dans le sens que c'est un peuple qui est têtu. D'ailleurs, comme Rashi explique, c'est quoi quelqu'un qui est têtu? C'est quelqu'un qui n'écoute pas les remontrances. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu est en train de dire, écoute, on va leur faire des remontrances, mais de toutes les façons, ils vont recommencer. C'est ça, un têtu. Un têtu, c'est quelqu'un qui recommence. Et en vérité, le Zohar explique que quelque part, le fait qu'on est têtu, c'est pas forcément un défaut. Des fois, c'est pas une qualité. Parce que le Zohar, il faut remarquer, il dit, qu'est-ce que vous croyez? Comment ça se fait qu'on est la seule civilisation qui a pu tenir dans le temps? C'est grâce à notre entêtement. Donc le Zohar, il dit, Am Kshioref, Lema Aliuta.
C'est l'abnégation.
Il dit que quand on dit têtu, quelqu'un qui est. Vous voyez? On avance, il s'arrête pas. Il peut être contre toutes les civilisations, tout le monde peut lui dire, tu te trompes, il avance. En tout cas, Kadosh Baruch Hu nous dit que Am Kshioref, là, notre entêtement n'était pas de notre côté, donc Kadosh Baruch Hu n'est pas content. Alors regarde. Je vais arriver rapidement au plaidoyer de Moshe Rabbeinu parce qu'il me faut au moins 20 minutes pour le développer. Alors, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata maintenant, Anichali. Maintenant, laisse-moi. Maintenant, Moshe Rabbeinu n'a rien dit encore. Dieu lui dit, laisse-moi. Ça veut dire que il est en train de lui faire comprendre que si tu vas insister, d'accord, tu peux. C'est comme, il y a un père qui dit à son fils, il lui dit, bon, écoute, si tu fais pas des efforts, ça veut dire qu'il a donné la porte de sortie. Voilà. Comment t'en sortir? Et de là, Rachid apprend qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, même quand il punit quelqu'un, et même quand la vera est très grave, il te montre toujours la porte de sortie. Il va pas te la faire prendre. Ça, c'est toi qui vas la prendre. Mais il va te montrer la porte de sortie. Dire que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dit, bon, maintenant, laisse-moi, je vais le faire. Catch me, tu vois, attrape-moi. Donc, Ani Khali maintenant, Veicha Rapi Bahem, laisse-moi, je vais m'énerver contre eux. Va Khalem, je vais les exterminer. V.S. Otra, les Goy Gadol, et je te ferai un grand peuple, je te ferai un nouveau peuple. Un peuple nouveau, du sang neuf, sans problème, Khadash, qui te prend pas la tête, qui me prend pas la tête, brand new, d'accord? C'est le rêve pour Moshe Rabbeinu, a priori. Un peuple qui te prend pas la tête, nouveau. Imaginez-vous, un prof qui a une classe que des cancres. Et le directeur lui dit, écoute, laisse-moi, je les vire tout, je te fais une nouvelle classe. Que des premiers de la classe. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Et là, regardez maintenant le plaidoyer de Moshe Rabbeinu, ça on va le faire avec Rashi. Vayechal Moshe et pene Adonai Eloav. Moshe plaida devant Akadosh Baruch Hu. Vayomer, il a dit. Lama, regardez, Moshe Rabbeinu va développer sa plaidoirie, vous allez voir que c'est très très fort comment il va faire ça. Très très fort. Il va utiliser toutes les techniques possibles. D'abord, il va essayer de minimiser la faute. Après, il va retourner le problème contre Dieu. Il va faire ce que personne n'a jamais fait jusqu'à maintenant. On avait fait un cours sur la paracha Shemot dans lequel on avait expliqué que le rôle de Moshe Rabbeinu c'était justement de se plaindre et de comprendre. D'utiliser le Sechel Chazak. Mais là on va voir que Moshe Rabbeinu il va partir encore plus loin. Il va contester une décision de Dieu. Il va carrément attaquer Dieu de front. Il va utiliser toutes les techniques possibles d'un avocat. Il va utiliser la technique de amoindrir le problème de donc amoindrir le problème de la faute. Il va retourner le problème contre Dieu. Il va trouver même des vices de procédure. Il va utiliser toutes les techniques possibles. Mais excellent, très très fort ce qu'a fait mon cher Benoît. C'est un grand classique qu'on fait aujourd'hui.
Donc tu étudies ça, t'es avocat.
Ah, vous étudiez ça, la vérité. Hein. Et d'ailleurs, même dans la paracha Pinchas, la paracha Shlach, pardon, quand il y aura l'histoire des explorateurs, mon cher Benoît va reprendre quelques arguments d'ici. Jurisprudence. Ah oui, si ça a marché.
Non, mais tu comprends maintenant comment DSK s'en est sorti.
Ah, maintenant, regardez. Comment il s'appelait son avocat, là,
le petit, là.
Rothman, le petit, là.
Excellent. Une pointure à la gueule.
Alors, on y va. Donc, Dieu, Moshe Rabbeinu, a plaidé devant. Maintenant, vous êtes prêts? On va développer point par point. Vayechal Moshe et Pnei Adonai Eloav. Moshe Rabbeinu a plaidé devant Kadosh Baruch Hu. Vayomer, il a dit. Lama Adonai Yechere Apecha Be'amecha. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Ils viennent de faire Vodazara, pourquoi je m'énerve? On va faire Hachim. Asher Otseta Meret Mitzrayim, le peuple que tu as fait sortir de l'état d'Égypte, Bekoar Gadol ou Veyat Razaka, avec une grande force, avec une main forte. On va faire Rashi. Alors, Rashi Yud Aleph, on prend la colonne de droite, deux lignes avant la fin de la colonne de droite. Regardez le premier argument de Moshe Rabbeinu, argument qui est très puissant. Il dit à Dieu, pourquoi tu t'énerves? Mais ça veut dire quoi, pourquoi tu t'énerves? C'est la pire des choses à ne pas dire, ça. Quand tu dis à quelqu'un qui est énervé, tu dis, mais pourquoi tu t'énerves?
Ça chauffe encore plus.
Alors, à quoi il joue Moshe Rabbeinu ici? Non. Rashi va nous expliquer qu'en vérité, Moshe Rabbeinu a un argument très fort ici. Là, Hashem Echere Apecha, qu'est-ce que dit Rashi? Klou Mitkane ne peut être jaloux, et là seulement, Chacham Bechacham, une personne qui est intelligente d'une personne intelligente, Gibor Begibor, une personne forte d'une personne forte. Il dit, attends, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? T'es jaloux? Ils sont partis chercher un autre Dieu? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te considères au niveau de la Avodah Zara? T'es jaloux? C'est comme, je vous donne un exemple un peu cru, c'est comme, imaginez-vous, Dieu préserve, un homme qui a trompé sa femme. Mais il a trompé sa femme avec une femme qui est moche de chez moche. Est-ce que sa femme va être jalouse? Elle va le prendre pour un malade, parce qu'elle va être jalouse.
Avec ça.
D'accord? Mais attends, dis-moi. On est jaloux quand c'est au même niveau, ou quand c'est mieux. Donc, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, attends, doucement. T'as vu la réaction que tu as? Ça y est, tu veux exterminer. Qui c'est? T'es jaloux?
Une banale statue.
Hein? Une banale statue? Et pas à ton niveau. Un intelligent n'est pas jaloux d'une personne qui est bête. Quelqu'un qui est fort n'est pas jaloux de quelqu'un qui est faible. Donc, comment Dieu, tu peux être jaloux? Il a pris des gros risques. Moi, j'attends, c'est rien, ça, c'est rien du tout, ça. Ah, c'est léger, ça. Vous allez voir la suite. Il va attaquer grave de chez grave. Moi, je sais même pas comment il a fait. Il a mis sa peau, hein. Il s'est mis de côté pour nous. Ça, c'est le premier argument. Donc, premier argument, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, un bon avocat? Il a essayé de minimiser la faute. Il veut dire, écoute, la faute n'est pas si grave que ça. D'accord? Ça, c'est numéro un. Le préjudice n'est pas si grave que ça. Le préjudice qu'à Kadosh Baruch Hu, tu dis que on t'a fait Avodah Zara, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi t'as être jaloux? Maintenant, Moshe Rabbeinu va retourner le problème contre Dieu. Et il va taper encore plus fort. Qu'est-ce qu'il fait un avocat? D'abord, il va minimiser l'impact et le préjudice, donc la gravité de la faute qu'a fait son client. Et s'il va être encore plus fort, il va retourner la situation contre l'autre. Regardez ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Très très fort. Lama Yomro Mitzrayim. Pourquoi? Alors, pardon, j'ai sauté un.
Non, c'est bon,
d'accord. Alors, donc il dit Lama Yomro Mitzrayim. Pourquoi l'Égypte va parler? Alors, ça, encore une fois, premier abord, ça nous paraît. C'est pas comme ça qu'on défend quelqu'un. Tu dis les gens vont parler. Alors, s'ils vont parler. Alors, attention, vous allez voir ce qu'il va expliquer. Lama Yomro Mitzrayim, les morts. Les Égyptiens vont parler. Parce que ça va savoir. Tu vas tous les tuer. Ça va savoir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Bera'a Otiam. On a vu comment il a fait sortir. Il les a fait sortir avec la main forte, etc. Il a fait grande classe. C'est-à-dire que c'était un Kiddush Hashem exceptionnel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Tout ça pour les exterminer.
Bera Otsia, en vérité, il les a fait sortir pour le mal. La Rogotam Beharim, pour les tuer dans les montagnes, ça veut dire en cachette. Ou les Chalotam Bealpena Adama, pour les exterminer. Ça veut dire que toi, Dieu, quand tu es sorti, quand tu nous as fait sortir d'Égypte, tu as fait un grand Kiddush Hashem. C'était un grand Kiddush Hashem. Les gens ont dit, regardez, il y a un Dieu. Il est venu les chercher. Dans l'Égypte, les États-Unis de l'époque, il est venu les chercher, il les a fait sortir, les effets spéciaux, etc. C'était un Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont apprendre que tu les as tous tués comme des. Tu les as jetés comme des chiens, tu les as tués dans le désert. Ça va faire, hein? Chilul Hashem. Et tu sais quoi? Nous, on va mourir, c'est pas grave. Pas de problème, on va mourir. Tu sais qui va souffrir de ce que tu vas faire? Toi, tu vas souffrir encore plus que nous. Parce qu'il y aura un Chilul Hashem irréparable. Donc là, il a retourné le problème.
c'est un argument massue.
Attendez, c'est rien encore. Vous allez voir, plus on va avancer, plus ça va être. Bah, c'est un bon avocat. Hein. Il va laisser le meilleur pour la fin. Hein, il est méthodique. Donc vous avez déjà vu les deux points qu'il a fait. Numéro 1, il a minimisé le problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, de quoi t'es jaloux? Il dit, c'est rien. Numéro 2, il dit, si déjà il y en a un qui va perdre, eux ils vont mourir. Qu'est-ce qu'il va se passer, ils vont mourir? Quand on meurt, on va où? On va en haut. Ça veut dire qu'en vérité, le Zohar explique que pourquoi Kadosh Baruch voulait les tuer. Parce que Kadosh Baruch a estimé que les Bnei Israël à ce stade-là, s'ils allaient avancer, ils allaient faire trop de bêtises. Donc il a préféré limiter la casse et on dit, vous continuez en haut. Donc il dit, les Bnei Israël, ils vont déménager, c'est tout. Ils étaient en bas, ils vont aller en haut. S'il y en a un qui va perdre, on change, c'est toi. Toi, Kadosh Baruch. D'accord? Toi, Kadosh Baruch, il y aura un grand Chilul Hashem. Le peuple vont parler. Ça, c'est le numéro 2. Ensuite. Zechor, le Abraham, le Yitzhak, ou le Israël, Avadecha, Asher Nishbat Alaim Bach. Souviens-toi du mérite d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, Asher Nishbat Alaim Bach, que tu as juré, tu leur as fait un serment, Bach, en ton nom. Rashi va développer. Vatedaber Alem, Abed Zachan Kechova Hashemim, Vechola Aret Zachan Marti, Eten Zachan Venachalou Lolam. Traduction. Tu leur as promis, tu leur as dit, vous aurez une grande descendance, comme les étoiles du ciel, et toute cette terre, je leur donnerai, etc. Alors là, par contre, on va devoir développer Rashi dans les mots. Alors, Rashi Yud Gimel. Colonne de gauche. Moshe Rabbeinu va passer au point numéro 3 de sa plaidoirie. Comment on dit, la plaidoirie ou le plaidoyer?
Plaidoirie.
Hein? Les deux, d'accord. On s'est posé la question ce matin. Zechor le Avram. Maintenant, Moshe Rabbeinu est conscient que les arguments qu'il a dit ne vont peut-être pas suffire. Parce que peut-être Dieu va dire, écoute, quand même, ils m'ont blessé. D'accord? Ils m'ont blessé. Et donc, ça, c'est, il va répondre avec ça au point numéro 1. Et le point numéro 2 que tu as dit, les gens vont parler, ben, les gens ont qu'à parler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fois, on regarde pas ce que les gens vont parler. Alors, Dieu va dire, écoute, eh ben, est-ce que Dieu peut pas faire un miracle que l'Égypte ne saura pas? Il n'y a pas Twitter et Facebook à l'époque. Hein, Dieu ne peut pas faire un miracle que personne, même avec Twitter et Facebook, n'aurait pu faire. Mais bon, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut faire un miracle que ça ne se sait pas? Donc Akadosh Baruch Hu peut répondre à tout ça. Donc là, maintenant, Moshe Rabbeinu, il va jouer avec les sentiments. Il va rappeler à Akadosh Baruch Hu des choses, des dettes qui n'ont pas été payées. C'est-à-dire que là, maintenant, il va dire, écoute, tu sais, il y a des choses qu'on t'a jamais demandées, et maintenant, c'est venu le moment de les payer. Donc là, qu'est-ce qu'il fait l'avocat? L'avocat, il va ressortir les vieux dossiers. Il va dire, regardez, là, on n'a pas parlé pendant tous ces dossiers-là, mais si vous commencez à parler, on va parler sur ça aussi. Donc là, il va faire la pression. Pression sentimentale. D'accord? Sentimentale et juridique. Regardez ce qu'il va faire. Zechor le Avraham, Rashi. Dans le pasouk, on croit qu'il y a un seul argument qui rappelle les patriarches. Mais en vérité, il y a ici quatre arguments différents. Quel est le troisième argument? Zechor le Avraham, il dit, qu'est-ce qui se passe? Les juifs, ils ont déjà reçu la Torah à ce stade-là? Alors, ils ont reçu seulement les 10 commandements. Donc finalement, qu'est-ce que tu leur reproches? Tu leur reproches d'avoir enfreint une Torah qui a 10 commandements. Donc le chiffre 10. Moi, le chiffre 10 me dit quelque chose. Tu sais ce qu'il me dit, le chiffre 10? Il m'avoue à la serrette à Dibroth, s'ils ont transgressé les 10 commandements, eh ben tu sais, moi je te parlais du chiffre 10. Avraham Avinu nitnase ba'aser nishonot. Avraham Avinu, lui, il a été éprouvé par 10 épreuves. Va'adain lo kibel sraro, et il n'a jamais été payé pour ça. D'accord? Donc, tene ou lo, il est arrivé, le moment est arrivé de payer Avraham Avinu à ses enfants le salaire pour les 10 épreuves qu'il a eues. Tene ou lo, donne-lui, veyas ou esser be esser, et on remplacera les 10 par les 10. Numéro 1. Ensuite, il a dit ici, les Avraham, les Yitzhak ou les Israël. Pourquoi il parle des trois patriarches? Avraham, Yitzhak et Israël. Rashi continue. Il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce que t'es décidé de les tuer? Im l'Israfaem, si tu as décidé de les brûler, si c'est la mort que tu as décidé, Zechor l'Avraham, rappelle-toi, le mérite d'Avraham, Shemassar Atzmo l'Israf Alecha Bochazdim, qui était prêt à se brûler pour toi, à être brûlé pour toi dans la fournaise. Donc, le Sroud d'Avraham qui était prêt à être brûlé, de les sauver de la Srefa que tu vas leur faire maintenant. Tu as décidé de les brûler? Avraham va les sauver. Maintenant, il te dit, Im l'Ariga, il dit non, on va leur couper la tête. C'est peut-être ce que tu as décidé. Il dit, Zechor le Yitzhak, rappelle-toi le mérite d'Yitzhak, chez Pachat Savaro la Akeda, qui a tendu son cou pour la Akeda. Il était prêt à ce qu'on lui coupe la tête. Im les Galout, tu veux dire non, tu sais quoi, je veux pas les tuer, mais je vais les envoyer en exil. Dans le monde entier, on sait qu'un exilé est considéré quelque part comme un mort. Il dit, Zechor le Yaakov, rappelle-toi du mérite de Yaakov, chez Galal et Haran, qui a été prêt à être exilé à Haran. D'accord? Donc là, Moshe Rabbeinu essaye de, ça veut dire, il anticipe ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit encore comment ça va se passer. Il a anticipé. Il dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, d'abord, il y a le Sroud d'Avraham qui a fait les dix, d'abord, il y a le Sroud d'Avraham qui a fait les dix épreuves, et grâce à ça, tu l'as sauvé la serrette à 10 brotes. En plus, qu'est-ce que t'as décidé? Les tuer par Srefa. Srefa, c'est le feu, d'accord? Si t'as décidé de les tuer par le feu, Avraham était prêt à se jeter au feu pour toi. T'as décidé de la tuer par le glaive. Yitzhak était prêt à être tué pour toi. T'as décidé de les tuer en les exilant. Yaakov était prêt à partir pour toi. Alors il dit, et là maintenant, écoutez cette force de mon cher Moïse qui va dire ici. Ça, c'est un argument très très fort. Il dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Et si tu vas me dire, non, écoute, le mérite d'Avraham, Yitzhak, Yaakov ne suffit pas. Il dit alors, alors qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, laisse-moi, je vais les tuer et je vais te faire un nouveau peuple. Il dit, mais attends, si tu me dis que le mérite des trois patriarches ne suffit pas, Im kisse shel shalosh raglaim et nomed lefanecha. Si une chaise sur trois pieds ne tient pas devant toi. D'accord? Matomerli, pardon, beshat kasra. Que quand tu t'énerves, ça tient pas. Kalva chomel kisse shel regelechad. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire maintenant, moi, un peuple? Mais moi, j'ai un pied. Si déjà une chaise avec trois pieds, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ne tient pas quand il y a des moments, quand il y a des turbulences, quand il y a la colère, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, je vais les enlever, je vais te faire un nouveau peuple. Mais il y aura un seul pied. Si une chaise à trois pieds ne tient pas, comment tu veux qu'une chaise à un pied va tenir?
C'est pareil, trop un pied.
Ça veut dire que là, maintenant, ce qu'il a fait, il a été encore plus fort. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit à Dieu, et après, tu vas nous tuer, et après. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas faire un nouveau peuple, mais ça tiendra pas. T'as rien gagné. C'est pas fini. Il est puissant, hein. Est-ce que vous avez vu comment il a retourné la situation?
C'est colossal.
Pour moi, j'ai vu ça, j'étais épaté. Il a ça c'est la Gemara Brachot qui explique ça.
On va expliquer plus en détail quand même l'histoire des trois pieds.
Avraham, Yitzhak, Yaakov.
D'accord. Bah. Il y a trois pieds, elle tient pas.
Si, ça tient. Il y a plein de barres dans lesquelles tu as des chaises à trois pieds. Enfin bon, je vais pas t'encourager à aller dans les barres, mais. Des cafés, des trucs comme. Non, trois pieds, c'est fréquent.
D'accord. Un pied.
Donc il dit, si une chaise à trois pieds ne tient pas, d'accord. Si avec Avraham, Yitzhak, Yaakov ça tient pas, qui sont. Comment tu veux que ça tienne? Donc en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, tu n'as rien à gagner. Tu n'as rien à gagner à les tuer et à me faire un nouveau peuple. Ça tiendra beaucoup moins bien. Parce que moi, je suis un seul pied. Mais c'est pas fini. Là, maintenant, il va trouver un vice de procédure. Qui va montrer à Kadosh Baruch Hu que même s'il veut, il peut pas nous tuer. Là, ça va être, il va mettre le dernier coup, là.
Argument choc.
C'est quoi le vice de procédure? Asher nishbata la embar. Dit à Kadosh Baruch Hu, il y a un problème. Chaque fois que tu as juré à Avraham, Yitzhak, Yaakov, des fois, quand à Kadosh Baruch Hu, il jure, des fois, à Kadosh Baruch Hu, il jure sur le ciel, sur la terre, sur des tas de choses. Mais ce qu'on remarque, c'est que à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu a fait un serment à Avraham, Yitzhak et Yaakov, un serment qui concerne l'âme Israël, dans lequel il leur jure que la postérité, qu'ils auront des enfants, etc., il n'a jamais juré sur le ciel et la terre. Il a juré sur son nom. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que s'il a juré sur le ciel et la terre, Dieu peut dire, bon, bah, c'est pas grave, le ciel, on le détruit. C'est ça l'objet qui fait tenir le serment. J'ai juré sur le ciel, c'est mon témoin. Je détruis le ciel, je fais un nouveau. Mais le problème, c'est que Dieu a juré en son nom. Et il lui dit, toi, Dieu, tu peux pas être détruit. Donc, de la même manière que toi, tu peux pas être détruit, le serment peut pas être détruit. Donc, vice de procédure, tu peux pas. Il ramène Rachid. D'accord? Il va revenir tout de suite. Il dit, l'onishbat ala em bedavar sheoukale. Tu ne l'auras pas juré dans une chose qui s'extermine. Loba shamaim, loba aretz. Tu ne l'auras pas juré dans le ciel. Tu ne l'auras pas juré sur le nom de la terre. L'obéarim, velobikvot, tu n'auras pas juré non plus sur les montagnes, ni sur les vallées, qui peuvent s'exterminer. Et que du coup, si l'objet sur lequel tu as juré n'est plus là, si la ketouba n'est plus là, bon, ben, le contrat n'est pas là, après on peut faire ce qu'on veut. Enfin, entre guillemets. Et la becha. Tu as juré en ton nom. Shata kayam, et que toi tu es existant. Ou je vois tra, kayam et l'olam. Donc ton serment, puisque toi tu es existant à jamais, tu es d'accord, on peut pas le remplacer. Donc puisqu'on peut, on peut pas te remplacer, donc ton serment aussi ne peut pas partir. T'es bloqué. Vice de procédure. Alors, où c'est écrit? D'accord? Chez Neymar, les Avraham, binishbati neum Hashem. Chez Avraham, qu'est-ce qui est écrit? Dieu a dit binishbati, ça veut dire je jure en mon nom. Et chez Yitzhak, où c'est écrit? Ou les Yitzhak Neymar, chez Yitzhak, c'est écrit, va ki moti et ta jvoa, shanishbati l'Avraham avira. Je vais accomplir le serment que j'ai juré à Avraham ton père. Quel serment? Le serment dans lequel Dieu a juré bi. Dieu a juré en son nom. Et chez Yaakov, Ou Yaakov Neemar, Ani Kel Shaddai Pere Ouvré. Donc ça, c'est les références, d'accord? C'est les références à la, les références halachiques, enfin les références pour Yaakov, que même chez Yaakov, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit? Akadosh Baruch Hu lui a dit Ani El Shakai. Je suis Kel Shakai, Pere Ouvré, tu vas te fructifier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, maintenant, Moshe Rabbeinu a trouvé un vice de procédure. D'accord? Alors, ça, c'est exceptionnel. Ça, personne n'a jamais fait ça dans l'histoire. Personne n'a jamais fait ça dans l'histoire. Parce que le rôle d'un tzaddik, normalement, c'est de défendre un Kadosh Baruch Hu. Le rabbin, une fois, avait expliqué, il a dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a deux rôles. Il a un premier rôle qui est le dirigeant d'Israël. Un deuxième rôle qui est celui qui est le représentant de la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est Moshe Emet, Vetorato Emet. Donc il a deux rôles. Il représente Israël, il représente la Torah. Là, il a dû faire un choix. Parce que Israël n'a pas respecté la Torah. Attendez, laissez-moi arriver. Israël n'a pas respecté la Torah. Donc il y a un choix à faire. Soit je choisis de défendre Israël, mais dans ce cas-là, on m'effacera mon nom de ma Torah, parce que Israël ne respecte pas la Torah. Soit je choisis la Torah, mais dans ce cas-là, on devrait effacer Israël. Le Zohar explique comme ça. Il dit que depuis la création du monde, il y avait un Safek. On sait que le monde a été créé pour deux choses, pour Israël et pour la Torah. Ça c'est Rashi qui le dit, premier Rashi de la Torah. Mais il y a un problème que Rashi n'a pas développé. C'est entre Israël et la Torah, qui a été créé pour qui? C'est une question très très importante que je vais poser. Est-ce que c'est la Torah qui a été créée pour Israël ou Israël pour la Torah? J'explique la question, donnez-moi encore deux minutes. La question est comme ça. Est-ce que c'est Israël qui a été créé pour observer la Torah? C'est-à-dire que le but c'est la Torah, et Israël a été créé pour observer la Torah. Ou est-ce que, d'abord il y a Israël, mais ce Israël il faut lui donner un mode d'emploi, le mode d'emploi c'est la Torah. C'est très important, parce que, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce qui se passe si tu as un juif qui ne fait pas les mitzvot? Donc un juif qui ne fait pas la Torah. Est-ce que le fait même qu'un juif est dans le monde, c'est déjà un but?
Non.
Oui ou non? Oui. Alors le Zohar dit comme ça. Le Zohar dit que jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'était un safek. Eini Yodéa. Vous avez dit le Zohar. Il dit Eini Yodéa. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, on ne savait pas. On peut tirer les deux côtés. Qui est l'œuf, qui est la poule. Hein. D'un côté, on peut dire que Israël est pour la Torah. D'un côté, on peut dire que la Torah est pour Israël. D'accord? On ne sait pas. Qui c'est qui a tranché? Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu ici, il avait le choix. C'était soit l'un, soit l'autre. Il y avait soit Israël, soit la Torah. Il ne pouvait pas parler dans le même temps. Quand Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit « Efface-moi de ton livre et fais passer pour Israël », il a montré qu'Israël est plus important. De là, le Baal Shem Tov disait la chose suivante. Il disait qu'un juif, le fait même qu'il existe sur terre, c'est déjà un but en soi. Même si il fait zéro mitzvot, il fait des millions d'averot. Il n'a pas fait une mitzvah dans sa vie. Il a vécu rien. Walou. Le Baal Shem Tov dit « Ça, pour l'averot, on punira ». Mais le fait même qu'un juif existe sur terre, c'est déjà un but en soi.
La question, c'est est-ce que la Torah, s'il n'y avait pas eu Israël, aurait eu un sens?
C'est clair que non.
Mais voilà, donc il n'a pu être créé que pour Israël.
Bien sûr. Mais, mais le contraire aussi. Il y a des gens qui vont dire le contraire. Exactement. Ils vont dire Israël sans le mode d'emploi. Si tu as une super machine, mais tu n'as pas le mode d'emploi, ça ne sert à rien.
C'est antérieur à Israël.
Non.
Si,
ah bah juste, à la création. Attention, Israël et la Torah étaient antérieurs au monde. Parce que le monde a été créé pour Israël et pour la Torah. Je parle des Neshamot Israël.
D'accord.
D'accord. Voilà, excusez-moi, j'ai pas précisé.
Mais si la Torah était antérieure au monde et Adam était.
Non, là, ça c'est le corps physique. Moi je parle des Neshamot.
D'accord.
Je parle du concept. D'accord. Ça veut dire que dans la tête de Dieu, vous savez, quand on lance un concept, il y a toujours le premier but. Et après, il y a d'autres choses qui viennent pour ça. Par exemple, je lance un business, mon but c'est de gagner de l'argent. Maintenant, comme je veux gagner de l'argent, donc je vais passer par beaucoup de chemins. Mais mon but c'est de gagner de l'argent. Il y a toujours un but. Donc la question qu'on se pose, c'est quoi le but? The but ultime. Il ne peut pas en avoir deux, il y en a un seul.
Gagner encore plus d'argent.
On sait que le monde est un moyen, c'est pas un but. Ça, on le sait. Mais c'est quoi le but? C'est Israël ou la Torah? Les deux ont été créés avant. Et les gens ont dit comme ça, ils disent, Eini Yodéa, je sais pas. Qui c'est qui a tranché? C'est Moshe Rabbeinu.
Israël, s'il te plaît. Oui.
D'accord? Que Israël, ça veut dire qu'en vérité, on a Israël. Pour Israël, on a créé le mode d'emploi qui s'appelle la Torah. Et pour Israël et la Torah, on a créé le monde dans lequel Israël va accomplir la Torah.
Sinon, pourquoi être allé chercher les Hébreux en Égypte?
Ça ne change pas, non. Parce que peut-être on peut dire que la Torah, c'est le plan de Dieu. Et que son but, c'est que le plan soit accompli. Et que Israël sont ses figurants, sont ses acteurs. Mais que le but, c'est la Torah. Ça se joue aussi. Vous savez, vous avez des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens religieux qui pensent comme ça aujourd'hui, qui pensent que le but, c'est la Torah. Qu'un juif qui ne fait pas la Torah ne vaut rien. Il y a des gens qui pensent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, la Torah c'est le plan de Dieu, Israël a été créé pour faire le plan de Dieu, si tu ne fais pas le plan de Dieu, tu ne vois rien. Ça se tient aussi, hein, ça se tient. Oui, bon, pas, ça, peu importe. Non, mais, ça, non, non, mais c'est vrai. Non, mais ça, attention, ça se tient. Ça, c'est logique. Il y a une logique dedans. C'est qu'il te dit, écoute, nous sommes des acteurs. Les acteurs, ils sont là pour jouer dans le film. S'ils jouent pas dans le film, ben, le but, c'est le film. C'est pas l'acteur.
Déjà bien ton rôle, après ça va.
Quand vous allez voir un film, le but, c'est pas l'acteur, c'est le film. Donc, ils te disent, le but, c'est le film. S'il y a pas si l'acteur ne joue pas dans le film, il vaut rien. Il rentre chez lui. Il peut rentrer chez lui. On n'a pas besoin de lui. Ça se tient aussi, hein. C'est pas. Donc, Moshe Rabbeinu a tranché. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est on a vu ici le Messie Ruth Nefesh, comme ce qu'a dit M. Bismuth de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il a joué sa peau. Dieu aurait pu s'énerver, là.
Oui.
Il aurait pu s'énerver, parce que là il a tapé fort Moshe Rabbeinu. Il a attaqué Dieu de plein front.
Il aurait pu être accusé de gavard en disant enlève mon nom si contre.
Ça, c'est après qu'il va dire enlève mon nom. Ouais, c'est, il l'a pas dit tout de suite, ouais. Alors, la conclusion, c'est quoi? J'ai fini. C'est que, Vaïnachem Adonai Alara'a. Dieu n'a rien répondu. Il n'a pas répondu. C'est-à-dire, on ne sait pas comment Dieu a pris les arguments. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Vaïnachem Adonai Alara'a Shardiber la Sot Lehamo. Dieu a regretté sur le mal qu'il avait décidé de faire à son peuple.
Le Mirage raconte comment. Je vous avoue. Le premier Rachim est celui qui raconte.
Oui.
Moshe Rabbeinu, il a réussi à prendre un coche beaucoup, donc on se copie à chaque fois.
Oui, ah bah oui, il a retourné la situation.
La première fois, quand il a parlé du Vaudor pour l'immobiliser, il a dit à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, créer ton problème. Il a créé une aide. Pas du travail du jour, mais du travail de la nuit.
Ouais.
Tu pas du soleil, il se passe de la pluie. Comme ça, quand tu lui travailles, tu réponds.
Ouais.
Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, mais ça va pas, toi aussi tu tombes là-dedans. Ça va pas, toi aussi tu tombes là-dedans. Tu vois pas, c'est qu'un morceau de métal. Il fait justement pour un morceau de métal, on va pas faire de
C'est un excellent avocat. Moshe Rabbeinu, c'est extraordinaire.
Pourquoi les écrits vont dire, alors ça va changer quoi qu'ils disent. En fait, ça remet en question tout ce qu'il a fait Abraham Avinu. Parce que Dieu des Égyptiens, vous pouvez voir au Louvre, il s'appelait Ra.
C'est
du rare.
Oui.
Ils avaient une étoile qui s'appelait Ra. Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il avait dit.
Bera Otiam.
Il avait dit qui Bera Alim ou un truc comme ça. Il avait dit. Bon, bref, il a dit, il y aura le mal devant vous.
Kira
il y aura le mal devant vous. Et en fait, lorsque
ils
sont juifs dans la mer, parce qu'il a vu que son dieu Ra, il y avait du sang, il a cru que c'était le sang des juifs. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il dit, non, bah, c'est moi qui sors, c'est pas le dieu Ra. Alors, il dit, ils vont dire, Bera Otsiam, c'est leur dieu Ra qui les a sortis d'Égypte, c'est pas toi. Et tu vas remettre tout le monde entier dans Avodah Zara, parce qu'ils vont être sûrs que c'est comme
ouais, ça. Ouais.
Donc, à chaque fois, il a pris à Kadosh Baruch Hu à contre-pied. Le Midrash raconte à la fin, parce que c'est très intéressant, il dit à la fin, quelle est l'impression de Kadosh Baruch Hu, il va Inachem Hashem. Il dit une fois, très belle, Kadosh Baruch Hu, la souris. Il a dit, ça vaut la peine de créer le monde pour des gens comme ça.
Elle est belle. Bon, il y a un point quand même qu'on devrait développer, mais c'est déjà l'heure. Peut-être une autre fois, peut-être, moi je sais pas quand. Mais un point que je voulais développer une autre fois aussi, dans lequel je veux montrer comment, quelque part, on a gagné au change. Parce que nous, quand on voit les deuxièmes louchotes, on sait que dans les deuxièmes louchotes, il n'y avait pas les mêmes miracles que dans les premiers. On dit que dans les premières louchotes, il y avait des miracles extraordinaires. Par exemple, il y avait un miracle que quand tu lisais le texte, tu comprenais tout de suite avec tous les commentaires. Ça, on a besoin de creuser.
Qu'est-ce qu'on a fait?
D'accord? Alors, on a l'impression, je vous donne juste un exemple pour finir. Alors, on peut avoir l'impression qu'on a perdu, alors que les deuxièmes louchotes, le Talmud a été donné avec, tout donné avec, mais ça veut dire qu'on va devoir gratter. Mais en vérité, le rabbi avait expliqué une fois, il avait dit qu'en vérité, nous, on croit qu'on a perdu au change. En vérité, on n'a pas perdu au change. Pourquoi? Parce qu'une personne qui voit, qui lit tout de suite et qui comprend, c'est pas intéressant. C'est comme un jeu, tu joues, tu arrives directement à la solution. Ça vaut rien.
Non, mais ça a créé des moments comme ici.
Donc, quelque part, Dieu a provoqué la faute du Vaudor. Mais ça, c'est pour un autre cours. Mais ça, c'est
oui.
Pour un autre cours.
Oui, mais il faut
pas croire. C'est free you pour le prochain cours. Bon voyage. Allez. En tout cas, on a étudié aujourd'hui la plaidoirie de Moshe Rabbeinu.